Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, Tim Dugas continue pour la deuxième heure avec Jean-Louis Tour et Franck Leboeuf, toujours là ?
Oui, je suis là.
Parfait les poulets, nous avons entendu Franck Leboeuf pendant la pub, ça il agit toujours pas qu'il faut couper le bouton rouge.
Non mais bon, je le dis tout, il est au téléphone. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, ça lui pose pas de problème, il a coupé son micro donc on l'entend pas. Non, allons-y, Francky.
Excuse-moi, j'ai ma dermato qui m'appelait.
D'accord, bien savoir.
Important, les petits problèmes de peau avant l'été.
T'as quoi comme problème de peau ?
Tu bronzes, que tu fais des petites taches blanches, là, on met une crème spéciale tous les deux fois par jour. Et donc, j'ai eu ce problème-là.
Oh, c'est mignon.
Un sacré problème.
Il faut faire attention.
Tu veux chier ce que c'est, mon Jean-Louis ? C'est que je pense que, comme il a dit tout à l'heure qu'il ne continuerait pas l'année prochaine sur RMC, je pense qu'il y a toutes les chaînes qui sont en train de l'appeler, toutes les radios.
Ça ne m'étonne pas.
Bah oui, pas non plus.
C'est quand même Franck Leboeuf.
Je ne fais aucun commentaire.
C'est quand même le titulaire en finale de 98.
Exactement.
Celui qui a musclé Ronaldo. Enfin, faut. Voilà. Laurent Blanc, qui appelle Laurent Blanc ? Personne. Voilà.
C'est bien de rappeler.
Il a pas trop envie qu'on l'appelle. Hein.
Roland Courbis est avec nous également. Bonsoir, mon Roland.
Salut les amis, salut à tous.
Bienvenue, Roland.
Je viens d'écouter que 91% de réussite au bac, c'était mon année, que j'ai pas pensé.
T'aurais dû le passer là. Ouais, t'aurais peut-être fait partie des 9%, fais attention.
Je te jure. Ah, bah oui, c'est vrai que ça.
Avec la chance que t'as sur certains dossiers, voilà.
Et Julien Cazard également. Salut Julien.
Oui, bonsoir Julien. J'ai eu mon bac au bout de la 4e fois.
Ah bravo.
Bravo pour cette persévérance. Ça veut dire que je lâche rien.
Ah oui.
Ça c'est
c'est Gennaro Cazard déjà.
Ouais, j'avais 22 ans. Hein. Bon, c'est quand même pas bon.
C'est pas très reluisant.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je prenais une tête à tout le monde. J'avais de la barbe, voilà quoi. Fallait me respecter.
Et ton permis de conduire, tu l'as eu au bout de combien de fois?
40 ans. C'est vrai, tout est vrai. Hein.
Ah ouais. Vraiment, t'as passé 4 fois le bac?
Ouais.
D'accord.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a?
Il est vraiment plus con que ce que je pensais.
Qui est vraiment têtu.
Faire des études, c'est pas une preuve d'intelligence non plus. Hein.
On n'est pas forcément
intelligent parce qu'on fait des études.
Les mecs, ils le passent quatre fois, ils l'ont dit, c'est bon, vas-y,
on peut pas dire qu'il ait fait des études, Francky, parce qu'il a fait 4 ans pour avoir le bac.
J'ai bac plus 4.
Si tu veux.
C'est bon ça.
Alors dans cette deuxième heure, le blind test sera là parce que vous vous moquez de Julien, mais c'est le plus fort au blind test. 32-16 pour vous inscrire. Bien sûr, c'est le meilleur.
Ça mène à tout, hein.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, là, tu te dis que tous tes cours de théâtre, etc., c'est pour gagner des blind tests dans Team Dugas.
Alors attends, j'ai pris 0 cours de théâtre de ma vie. Hein, je
ah bon? Ah bah oui. Quand tu montais sur les planches, c'était que de l'impro au talent, quoi.
Non, c'était un genre de cotorep. C'est-à-dire que c'était pour aider les gens en difficulté.
Très bien.
Réinsertion par le théâtre.
Les anciens Lyonnais également au programme de cette deuxième heure. Leur trajectoire est-elle décevante depuis leur départ? On met dans cette liste Fekir, Lacazette, Tolisso, Umtiti ou encore Gonalon. On en débat tout à l'heure. Sur Lyon, Juninho a donné une interview aux Guardians où il dénonce, dit-il, la cupidité de Neymar. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Mohamed Bouafsi va revenir avec nous dans une seconde. Justement, il est en train de discuter avec des membres de clubs dont on va parler tout de suite puisque la relation directeur sportif-entraîneur fait beaucoup parler. Alors dans l'équipe ce week-end, on a pu lire les méthodes de Leonardo et surtout sa conception du rapport avec l'entraîneur, lui qui est directeur sportif du PSG. Ce n'est pas au coach de décider des recrues, le coach est là pour travailler avec les joueurs qu'on lui propose, pense à Leonardo. On sait qu'à Lyon, c'est le mode de fonctionnement qu'aimerait mettre en place Juninho également. Alors comprenez-vous cette logique ou est-elle trop de limites? 32-16 pour en débattre. Dugat est plutôt d'accord avec eux.
Alors écoute, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, il est hors de question d'imposer tous les joueurs. Après, c'est une question de compromis. C'est une question de compromis qu'il faut arriver à trouver. Et je pense que la qualité d'un directeur sportif, au-delà de trouver des bons joueurs le moins cher possible et de revendre ce que tu ne veux plus ou que ton entraîneur ne veut plus ou ne veut pas faire jouer, je pense qu'il doit être dans le consensus. Il doit être aussi capable d'expliquer ses choix, de les faire comprendre. Maintenant, sur le fond, oui, je crois qu'un directeur sportif est un homme du club. L'entraîneur n'est pas un homme du club. L'entraîneur peut, à mon avis, à tout moment partir assez rapidement. On se rend compte quand même que les entraîneurs sont souvent plus souvent virés que les directeurs sportifs. Et que fais-tu si c'est les entraîneurs? Ça a été pendant un moment, il y a des présidents qui ont essayé de délaisser un peu cette chose-là, qui voulaient travailler sans directeur sportif et laisser le soin à l'entraîneur de faire le recrutement. Mais quand l'entraîneur, il est viré parce que les résultats ne fonctionnent pas, qui garde les joueurs? Qui doivent payer les joueurs? C'est les présidents, c'est le futur entraîneur. Non, je pense que le rôle d'un directeur sportif, il est de choisir les joueurs, alors en acceptation le plus possible avec les entraîneurs, mais quand c'est pas possible, je crois que c'est dans son rôle de pouvoir imposer des choses. Et voilà, moi je suis pas convaincu sur le fait. Même un club comme, tu sais, un club comme le Real Madrid, j'en ai souvent parlé avec Zizou sur son retour lorsqu'il est revenu au Real Madrid. Au bout d'un moment, il sait très bien que le président va vouloir faire venir des joueurs, que le directeur sportif va vouloir faire venir un joueur. Après, si sur une dizaine de joueurs pour voir large, sont recrutés, on va dire que l'entraîneur en prend 2-3, le directeur sportif 2-3 et le président 2-3, chacun se répartit un petit peu parce que chacun a envie de mettre son grain de sel dans ce travail là mais pour moi sincèrement, je pense que le directeur sportif doit en parler à l'entraîneur, mais ne doit pas forcément, je dis bien, avoir l'autorisation de l'entraîneur pour recruter ces joueurs-là, parce que le jour où l'entraîneur n'est plus là, eh bien, c'est le directeur sportif qui doit prendre ses responsabilités.
Alors, Francky. Moi, j'ai une question à Christophe. Si c'est ce cas-là, comment tu peux former une tactique? Parce que un entraîneur va prendre les joueurs qu'il a à disposition, mais si tu fais un recrutement pour qu'on ne pas travailler vraiment avec l'entraîneur par rapport à une tactique que tu aurais et avec des joueurs dont tu aurais besoin selon cette tactique.
Je pense que l'entraîneur doit faire une liste de joueurs dont il a besoin, dont il espère avoir, et après c'est au directeur sportif de trancher en fonction de la faisabilité, en fonction du salaire. Pour moi, l'entraîneur doit soumettre une liste des joueurs dont il estime avoir besoin, et après tu as un échange entre les deux, mais je pense que le dernier qui doit donner son aval et qui doit décider, c'est le directeur sportif.
J'ai une question. Je peux avoir une question? Bonjour, Julien Cazard, Paris, 75-009. Je suis dans votre émission. Surtout toi, Duga, tu vas nous manquer. Mais voilà. Mais j'ai une question. Est-ce que cette question, la réponse est la même si ton entraîneur est Jürgen Klopp ou Pierre Mankowski? Parce que moi, je veux bien qu'on pose la question de manière générale. Mais t'as des mecs qui viennent avec un projet global de construction, et puis t'as des mecs qui sont là, tu sens que c'est du passage. Genre Unai Emery, tu sens que le mec, quand il arrive, s'il commence à choisir les joueurs.
Regarde le Real avec Zizou, je t'ai répondu. Il a gagné 3 Ligues des Champions, il n'a pas pu imposer son recrutement.
Oui, mais c'est t'es d'accord que au-delà du, je parle pas de la qualité de l'entraîneur en fait, là je déconne, mais au niveau du style, c'est-à-dire que Zinedine Zidane est un entraîneur qui sait faire jouer une équipe avec des stars tout ça, mais Klopp c'est quelqu'un qui construit avec des joueurs complètement différents.
Oui, Guardiola non plus n'aurait jamais pu accepter ça, et lui il veut choisir
profil,
ses joueurs.
Voilà, est-ce que le profil de l'entraîneur que tu prends ça joue pas? Je demande ça. Voilà, merci à tous et je trouve une super émission.
Là, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Julien Dugas?
Il a pas tort, je parle en général, il me parle. Alors c'est vrai que j'ai pris l'exemple de Zizou effectivement qui est particulier, mais non, je crois que en règle générale, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit par exemple à Bordeaux pendant des années Jean-Louis Triot, il voulait pas de directeur sportif.
Qu'il voulait pas avoir arbitré entre le directeur sportif
un entraîneur ne peut pas tout faire. Déjà c'est assez compliqué d'entraîner. Déjà c'est en plus il faut qu'il choisisse les mecs. Alors il s'acoquine avec des agents qui vont lui faire son recrutement. Mais non, mais le directeur sportif est un homme du club. Ça doit pas être un mec qui est à l'extérieur du club. Je crois pas que pour le bon fonctionnement d'un club, les choses sur le long terme peuvent fonctionner sans un directeur sportif qui prend ses propres responsabilités. Le jour où l'entraîneur, comment tu fais le jour où l'entraîneur est viré? Comment tu fais que les joueurs qu'il a recrutés, comme Rudy Garcia, il a pris des mecs, tu te retrouves avec Strootman, il a pris des mecs. Du jour au lendemain, il est viré. Et comment tu fais avec ceux qui restent?
Ah oui, bien sûr. Mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Alors, je le mettais plus côté Pierre Mankowski, lui, que Klopp.
Oui, c'est ça, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça peut poser problème. Alors, tournons-nous vers un entraîneur, donc coach Robis.
Oui, bien sûr.
Toi, j'imagine que tu as du mal à comprendre ces directeurs sportifs qui veulent tout gérer.
Oui et non. Dans le sens que déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Ça, quand tu es directeur sportif de Paris Saint-Germain, tu n'as pas la même grandeur de chéquier que dans notre club. Donc c'est sûr que c'est très difficile quand tu es directeur sportif du Paris Saint-Germain de prendre un mauvais joueur. Toi, il faut pratiquement le faire exprès, ouais. Et ça va.
Parlons du cas de Lyon, alors. Roland, parlons du cas de Lyon, par exemple.
Mais on en parle après. Je te parle d'abord de, s'il te plaît, de Paris Saint-Germain et de Leonardo. Donc, je le suis, mais je le suis comme Christophe, qu'en partie, dans le sens que, dans l'intérêt du club, ok, votre histoire et votre précision de dire, bon, après, on va se taper, entre guillemets, les joueurs qu'aura voulu l'entraîneur, alors que l'entraîneur se sera fait virer. Mais bon, ce qu'il faut quand même réfléchir, c'est à ne pas se faire virer. Et dans l'intérêt du club, il doit y avoir quand même une discussion entre les idées de l'entraîneur, les possibilités financières du club avec le président et la vision du directeur sportif. Un exemple, je joue en 4-4-2, mais 4-4-2 c'est une chose et ça dépend aussi du profil des joueurs. Mes deux extérieurs, comment je les prends, je les mets comme on avait à Bordeaux à l'époque avec des Mikou, Benarbia ou nous Duga et Ravanelli, les deux attaquants, qu'est-ce que c'est le profil au moins que je puisse dire à mon directeur sportif, le profil que j'ai envie, et après lui il va me les trouver et me posera, je pense, la question en disant, tiens, je t'ai trouvé ça comme profil, si on tombe d'accord financièrement, tu préfères ça ou ça, et moi j'argumente. Mais après, s'il y a un dernier choix, comme l'a dit Christophe, je ne m'imagine pas qu'il y ait un joueur qui puisse venir si il ne plaît pas au président, s'il ne plaît pas au directeur sportif et s'il ne plaît qu'à l'entraîneur. Ça, évidemment, je ne l'ai pas envisagé. Mais imposer à un entraîneur un joueur qui n'a pas envie, eh ben, ça dépend du caractère de l'entraîneur. Là, Leonardo, pas Leonardo, j'y écoute. Tu as les qualités pour être directeur sportif et entraîneur, mais il vaut mieux que tu fasses entraîneur, parce que là, sincèrement, si tu me prends celui-là, je comprends pas, c'est vraiment le dernier joueur que j'ai envie de coacher. Donc voilà un petit peu, on peut pas généraliser sur cette situation-là.
Oui, mais tu penses pas quand même, par rapport à ce que disait Duguin, que l'entraîneur va quand même souvent être là pour avoir des résultats à court terme, parce qu'il sait que son temps de vie est limité dans un club, quitte parfois à mettre au second plan le moyen terme du club. L'exemple qui vient, c'est Anigo Deschamps. C'est-à-dire que Deschamps voulait des joueurs de 30 ans pour gagner tout de suite, cher, mais sur lesquels l'OM pourra pas faire une vente ou une plus-value plus tard.
Ben oui, mais ça, tu en discutes.
Ouais.
Ça, tu peux te dire, écoute, tu es bien gentil.
Là, ils ont eu du mal à en discuter quand même.
Hein. Tu réfléchis à court terme. Nous, c'est-à-dire le président et moi, sur tel ou tel joueur, on peut. Sur tel ou tel joueur, on peut. Sur celui-là, on peut pas. Donc voilà. Tu me donnes un exemple de Didier Deschamps à Marseille. Didier Deschamps à Marseille, après, avant la dispute avec Anigo, on lui avait déjà proposé la place. Dès qu'il a su qu'il n'y avait pas la possibilité de faire un bon recrutement, ben, il a pas accepté le challenge. Quelques années après, quand il y avait une intersaison où il y avait ces 4 ou 5 monstres qui arrivaient avec des montants de transfert, comment il s'appelait,
Lucho.
Voilà, donc il y avait Mbia, il y avait Diawara, donc ouais. Donc si tu veux, et là il avait accepté le challenge. Donc là vous me donnez un exemple.
Non, mais là, c'est un qui me vient comme ça.
Des précisions dans l'exemple.
Mohamed Bouafsier de retour avec nous, puisque en plus il a gagné une info dont on vous parlera tout à l'heure en réponse à Juninho concernant le PSG. Donc ça, ce sera tout à l'heure avec les propos de Juninho concernant Neymar. Juste sur le sujet, qu'est-ce que tu voulais ajouter ?
Non, je voulais ajouter souvent, messieurs, que les directeurs sportifs prennent des entraîneurs dociles, des entraîneurs qui ont leur confiance pour accepter qu'ils n'ont pas la main sur le mercato, parce que les directeurs sportifs considèrent souvent que les entraîneurs passe, mais que l'institution reste et que reste un petit peu plus longtemps dans le club. Et notamment, on le voit dans les grands clubs allemands, les entraîneurs passent souvent, les directeurs sportifs ne bougent jamais.
Les directeurs sportifs sont là sur la durée.
Oui, voilà.
Et sont là pour le passage, quoi.
Et c'est d'ailleurs pour ça que les relations sont très mauvaises la plupart du temps entre le directeur sportif et l'entraîneur, et que c'est le président qui calme les choses, parce que oui, les entraîneurs, comme l'a dit Roland, on sait que Didier Deschamps avait des exigences assez élevées. Moi, j'ai eu des échanges souvent avec des présidents qui me disent, à chaque fois, je dois calmer la ferveur de mon entraîneur et je dois calmer la colère de mon directeur sportif, parce que les demandes ne sont pas les mêmes.
Mais tu sais que sur ça, je te sortais l'exemple de Bordeaux, après je vous laisse réagir. Jean-Louis Trio, il en avait marre justement de ces conflits-là. Il est toujours obligé d'arbitrer. Ouais. Et il s'est dit, ça m'a saoulé. Et c'est pour ça qu'il a, il a arrêté.
Moi, j'ai un petit problème parce que par rapport aux médias, souvent, quand l'équipe joue pas bien, on va taper directement sur l'entraîneur. On va pas chercher le directeur sportif. On le voit rarement interférer après. Et il laisse le. En fait, le directeur sportif choisirait les joueurs. Presque ferait la tactique, puisque s'il choisit le joueur, c'est lui qui choisit de quelle façon on va jouer. Par contre, s'il n'y a pas les résultats, on tape sur l'entraîneur. Il y a un truc qui ne va pas.
Il choisit des profils de joueurs.
Le risque, c'est que si l'entraîneur, par exemple, il n'a pas choisi un joueur, il peut mettre Ricard, un gars qui est extrêmement brillant. Par exemple, Louis Van Gaal. Il avait un mec extrêmement brillant, il ne le faisait jamais jouer. Parce qu'il n'avait pas choisi lui-même.
On lui a vendu un super numéro 6, nouveau Pirlo.
Le mec, il ne veut pas jouer.
Ouais, parce qu'il ne voulait pas jouer à ce poste-là.
Ce qui est certain, c'est qu'un joueur qui signe dans un club, il faut qu'il ait, avant de signer, l'entraîneur au téléphone.
Ça c'est sûr.
Alors que le directeur sportif le veuille, c'est une chose, mais il doit aussi avoir un dialogue avec l'entraîneur.
L'autre exemple qu'on n'a pas cité, c'est Jardim, qui à Monaco, pendant longtemps, a fait avec ce qu'on lui donnait. Sans tenir compte de tous les départs, il en a avalé beaucoup des départs.
Mais sauf que les entraîneurs aujourd'hui ne l'acceptent pas. Les entraîneurs n'acceptent pas. On peut le dire. À part les grands clubs, quand un entraîneur arrive dans un très grand club, pour lui, c'est, l'exemple Jardim, il est assez dingue parce qu'il était dans un club qui n'était pas un très grand club européen, j'ai envie de dire Monaco, même si c'est un bon club, c'est pas un très grand club, c'est pas la Juve, c'est pas le Real, c'est pas le Barça. Donc il a accepté ça. Mais dans les clubs moyens, des entraîneurs qui sont déchants à l'OM, il n'acceptait pas grand chose.
Il avait un salaire net d'impôt aussi qui lui permettait d'être indulgent, tu vois, avec les trucs. Et puis si sur 70 joueurs sous licenciés, tu n'arrives pas à sortir un 11 de départ,
ils n'ont pas filé des tocards quand même.
Je vous donne un dernier exemple. Un directeur sportif m'a dit un jour, je construis l'équipe pour les 7-8 ans qui arrivent. Et même après mon départ, cette équipe-là, elle devra tourner. Si j'écoute mon entraîneur chaque saison, le turnover des joueurs a lieu tous les étés. Tous les étés, je dois changer 4-5 joueurs.
Ça se tient. Moi, je trouve que ça se tient et qu'on devrait juste taper sur le directeur sportif quand les résultats ne sont pas là.
Il faut faire gaffe aussi à un truc. Tu sais, j'ai deux oreilles, mais deux oreilles pendant une quarantaine, voire une cinquantaine d'années, en ont entendu de différentes sortes. Et j'ai entendu aussi, et c'est difficile d'avoir la réponse, que dans un vestiaire, il fallait quand même régulièrement changer et surtout pas faire la connerie, même après une saison réussie, de garder les mêmes à 100%. Il faut toujours en changer 2-3 minimum pour qu'il y ait de nouvelles têtes, pour qu'il y ait de nouveaux challenges, pour qu'il y ait, si tu veux, de nouvelles choses. Donc après, que l'ossature d'un club... Oui, ok, mais dans la période actuelle, l'ossature d'un club, et si tout de suite tu as un coup de téléphone avec une offre, ben, ton joueur que tu aurais aimé garder, ben, tu le vends.
Hein. Et pourquoi en Angleterre, par exemple, il n'y a pas ce problème-là? Guardiola décide de tout, Lampard décide de tout, Solskjaer décide de tout.
Non, mais le problème aussi à Manchester City, par exemple, tu cites Guardiola, Tiki Beglistein, son directeur sportif, est arrivé avant lui et l'a ramené. Et il voulait absolument que Guardiola vienne. Ouais. Et souvent en Angleterre, il n'y a pas de directeur sportif, il y a des managers généraux.
Donnons la parole.
Et un président.
Ahmed, qui est avec nous au 32-16. Salut Ahmed.
Salut les gars, merci beaucoup de la parole. J'adore votre émission, j'adore du gars.
Salut Ahmed, merci beaucoup.
Alors, je précise, vous n'êtes pas obligés tous de dire ça, hein, parce que c'est la dernière semaine de Team du gars. Voilà,
je rigole, c'est la consigne donnée aux auditeurs par le standard.
Vous pouvez parler librement. Vas-y Ahmed.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec l'idée que c'est le directeur sportif qui dirige. L'entraîneur, il donne des profils, il dit je veux plutôt un 6, je veux plutôt un grand, un gars technique, et après à lui de chercher. Moi je suis pas d'accord que l'entraîneur décide des joueurs qu'il doit prendre. On a vu à Marseille, est-ce que les Marseillais sont contents de garder Certic et Strootman? Ben non, ils l'ont sur le dos maintenant. Regardez, il y a aussi une mauvaise foi chez l'entraîneur. Regardez Paredes, il n'en veut pas de toile de Paredes, il ne le fait pas jouer. Il voulait Gay. Finalement, il lui a mis Gay. Est-ce que Gay s'entend bien avec Verratti? Ben non, et on voit que Paredes, tout contre, il fait l'affaire. Donc le choix de l'entraîneur, parfois il est subjectif, parfois il a un joueur dans le pif, on ne sait pas comment il voit les choses, il a des copains. Moi je préfère que le directeur sportif ait les choses en main. C'est la garantie pour le président et pour la durée du club pour moi.
On est plutôt d'accord avec ça, hein, Ahmed, donc voilà, tout va bien.
Ouais, effectivement.
Bon, merci Ahmed pour ton intervention.
À bientôt.
Tu reviens quand tu veux.
C'est sûr que quand un directeur sportif il met 50 millions dans un mec, c'est pas pour qu'il soit titulaire dans le dernier quart d'heure. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui disent, oh, mais tu seras titulaire dans le dernier quart d'heure.
C'est Tourelle qui voulait Paredes.
Ouais.
Tourelle, il voulait Idrissa Gueye et Antero Henrique voulait Paredes. Voilà.
Mais du coup, ils ont pris les deux.
D'abord, Paredes, et pour faire plaisir à Tourelle, quelques mois après, Idrissa Gueye.
Après, il faut se mettre à la place de Leonardo aussi, donc, puisque je te dis qu'il ne faut pas généraliser. Le mec, il a réussi à faire un effectif avec deux numéros 9 comme Icardi et Cavani. Et que quand tu vas au match aller de Borussia Dortmund, il y a ni l'un ni l'autre, c'est sûr que ça lui donne pas envie de continuer à discuter avec l'entraîneur.
Oui, t'as raison. Mohamed, reste avec nous. Justement, on va parler de Leonardo dans un instant, mais surtout de Juninho qui s'est exprimé sur son compatriote, sur Neymar, avec des mots assez crus, assez tranchés. On revient là-dessus dans un instant dans Team Duga. Sachez juste que ça joue également en Angleterre. Chelsea mène 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace. Encore un but d'Olivier Giroud. C'est quand même assez impressionnant le nombre de buts qu'il marque depuis que ça a repris en Angleterre.
Ah, il a pris la place de Tammy Abraham.
Ouais, c'est incroyable.
Tu te rends compte qu'on serait en plein euro.
Trajectoire. Oh. Ah oui, là, on sera en plein euro, effectivement, coach. On serait même vers la fin de l'euro. Hein. Et bon, je ne sais pas quel stade on serait là, mais à mon avis, on ne doit pas être loin des demi-finales.
Demi-finale, ouais. Voilà. Ouais, exact.